Salut, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga et une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Comme l'océan, je pense que c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis dès 7h du matin de l'inspiration et des conseils de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Si tu souhaites recevoir plus d'informations et de partages, alors je t'invite à visiter mon site internet www.anoukcoroller.com. Cette semaine, j'interviewe Camille Sfez, qui est psychologue, clinicienne, formatrice et qui accompagne les transformations individuelles pour une plus grande liberté d'être. Depuis plus de 10 ans et la création de la Tente Rouge de Paris en 2011, elle anime des cercles de parole et des espaces d'exploration de nos profondeurs. Elle y intègre une grande pratique de l'écoute et des outils d'art-thérapie comme le dessin, la danse libre et le chant spontané. Camille travaille dans son cabinet en accompagnement individuel à Bordeaux et propose également des accompagnements de groupe en ligne. Le titre de son nouveau programme en ligne s'appelle « Le courage d'être vulnérable » et commence le 14 octobre 2022. Et ne vous inquiétez pas, si vous loupez cette date, il y aura d'autres propositions pendant l'année. C'est un accompagnement sur 12 semaines pour comprendre et ressentir nos fragilités sans en avoir honte, un lieu sacré pour se mettre à l'écoute de nos sensibilités. C'est un programme que je me réjouis moi-même de commencer. Et pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site internet www.camillesfez.com. Camille est également l'autrice de 2 livres qui sont extraordinaires et qui ont changé ma vie. Le premier, La puissance du féminin, et le deuxième, Vulnérable, dont nous parlons également dans l'interview. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu enregistrer Camille. C'est quelqu'un qui est très inspirant et lumineux. Alors je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Camille.
Bonjour Anouk.
Merci beaucoup de te rendre disponible pour cette conversation.
Merci à toi.
Je suis vraiment ravie de t'avoir, que tu puisses partager avec nous tes connaissances, ton expérience aussi. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui a motivé l'écriture de tes 2 livres, donc le premier, La puissance du féminin, et le deuxième, Vulnérable, tous les 2 parus chez les éditions Le Duc.
Oui, alors le premier livre, en fait, c'était une commande. Donc c'est une éditrice qui est venue me dire, mais ce que tu fais dans les cercles de femmes, c'est très précieux et il faut en parler. Il faut que ça reste, il faut pas que ça reste quelque chose de caché et d'intime. Il faut que, voilà, cette expérience que les femmes vivent dans les cercles, elle puisse être communiquée. Et ça a vraiment réveillé mon désir de rendre visible toute la magie, toute la puissance que je connectais dans ces espaces. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un truc qu'on faisait hyper discrètement, sans aucune communication. C'était, enfin, moi, j'utilisais pas les réseaux sociaux à l'époque, ou très peu. Il y avait pas tellement, voilà, on n'en parlait pas. Donc j'avais vraiment envie de dire « Eh oh, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est bon pour nous, les femmes, et de pouvoir, du coup, voilà, parler de ce qui s'y passe et transmettre ce message. » Et puis l'écriture du deuxième livre, donc « Vulnérable », c'était, je pense, peut-être 3 ans après, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a vraiment une continuité entre les deux, c'est-à-dire que finalement, je me rendais compte que... En me posant cette question de qu'est-ce que ça veut dire être une femme, je suis allée rencontrer plein de pratiques, découvrir des choses à l'intérieur de moi, rencontrer d'autres femmes qui se posaient cette question, et que finalement, ce qui m'a le plus touchée dans tout ça, c'était ce qui se passait quand on osait être vulnérable. Et donc, du coup, c'était vraiment l'envie d'aller un peu plus loin et justement d'aller peut-être focaliser mon attention sur ce processus-là, cette mise en vulnérabilité. Comment elle se fait, pourquoi elle se fait pas, pourquoi elle nous fait peur, qu'est-ce qui se passe quand on se rend vulnérable? Parce que ce que j'ai expérimenté moi dans les cercles, c'est que en fait cette vulnérabilité, elle nous donnait énormément de force en fait. Donc c'était voilà, presque c'est un seul livre en 2 en 2 volets. Enfin, il y a un peu quelque chose comme ça.
Et donc dis-moi si je me trompe, mais à travers notre vulnérabilité, on fait de plus en plus l'expérience aussi de notre féminité profonde. dans cette ligne-là.
Oui, alors j'ai toujours du mal avec ces notions de... Enfin, j'ai du mal. Disons que j'ai de plus en plus de mal, même si mon livre, il s'appelle « La puissance du féminin », donc je parle de féminité. Et il y a beaucoup de confusion entre la féminité, qui sont les attributs que les femmes utilisent pour se sentir femme, d'une certaine manière, ce qui est de plus profond dans cette féminité, on pourrait dire, donc ils ne sont pas de l'ordre des attributs, qui sont plutôt de l'ordre, j'aime bien la définition de Camille Froide-Vaumétry qui dit un rapport à soi, à l'autre et au monde, et ça c'est le féminin, enfin c'est sa définition à elle du féminin, mais donc du coup dans ce rapport à soi, aux autres et au monde, on n'est plus dans les attributs, mais on est dans quelque chose de plus essentiel, et je pense que la vulnérabilité, elle a tout à fait sa place dans notre rapport particulier à notre corps, déjà, qui est vulnérable parce que tous les mois on a nos règles, qui est vulnérable parce qu'on porte nos bébés, parce que on vit la ménopause. Donc il y a un corps plus vulnérable qui nous met aussi en lien avec un rapport au monde plus sensible, je dirais, plus conscient de la fragilité des choses, moins mental, plus incarné peut-être. Je sais pas si c'est très juste de dire ça. Je dis pas que les hommes sont moins incarnés, mais il y a quelque chose de où le corps des femmes. On peut pas faire l'économie de notre corps en tant que femme, alors qu'en tant qu'homme, je pense qu'on peut plus facilement s'en couper. Et donc en ça, oui, la vulnérabilité, elle a quelque chose en lien avec ce féminin. Je sais pas si c'est clair.
Si, très. Et qu'est-ce que ça nous apporte de nous remettre en connexion avec cette sensibilité?
Je crois que déjà, c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on n'est pas en connexion. On vit dans un monde qui s'est construit, alors on va dire le patriarcat, ou depuis 2000 ans, s'est construit sur un mythe qui est qu'on pourrait être invulnérable, que si on fait suffisamment d'efforts, si on serre les dents, si on n'a pas d'émotion, si on est dans la performance, si on est dans une posture de domination, si on est dans le perfectionnisme, voilà, il y a plein de manières qu'on pourrait avoir pour échapper à notre fragilité. Et donc, en fait, la fragilité fait peur. La fragilité, c'est les femmes, les enfants, les homosexuels, les fous, les malades, enfin, tout ce qui a été pointé du doigt qui n'était pas la virilité, en fait, pendant 2000 ans. Et ce modèle-là, de la virilité et de la domination, il est en train de s'écrouler, en fait. On est en train vraiment de se rendre compte que c'était un mythe illusoire et que toutes ces voix, on va dire, dominées, ou toutes ces voix qui n'étaient pas les voix dominantes, elles se mettent aujourd'hui à parler, et du coup, on se rend compte qu'en fait, on vit dans un monde mille fois plus riche que cette croyance-là de l'invulnérabilité. Hein. Donc déjà, en fait, comme ça s'effondre, il y a une sorte de... juste prendre en compte le réel, qui est, non, ça, en fait, tout ce qu'on nous a dit sur cette performance, sur ce culte de la performance, en fait, c'est un mythe. En fait, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, il y a comme une illusion, en fait, qui peut tomber aujourd'hui. Et les gens peuvent commencer à se dire, mais je pense qu'on a beaucoup vécu ça aussi avec le Covid. Tout ce après quoi on croyait, cette course à la performance, à la réussite, à tous ces gens qui en avaient marre de donner leur temps à leur entreprise, qui ont fait des burn-out, qui ont eu besoin de revenir à des choses plus simples, à la nature, etc. D'une certaine manière, ils sont arrivés en bout de course, essoufflés de ce modèle. Donc c'est déjà prendre acte que ce modèle, il s'écroule. Bon, je pense que ça, on en est tous conscients. Et du coup, alors on peut reprogrammer quelque chose si on quitte cette illusion de l'invulnérabilité, si on accepte qu'on a des fragilités, que ces fragilités, c'est pas de la faiblesse, que ça nous constitue, qu'on peut en parler, qu'on peut vivre en acceptant de les ressentir. Alors tout d'un coup, ça nous ouvre un monde beaucoup plus riche. Des relations significatives, ça c'est Brené Brown qui dit ça, elle dit vraiment la vulnérabilité c'est une clé pour vivre des relations significatives. Quand je suis capable dans une relation à l'autre de me montrer vulnérable, je suis capable de liens, en fait, d'une plus grande intensité dans les liens, et du coup je peux aussi développer mon empathie, mettre à la place des autres, comprendre les enjeux de fragilité pour les gens qui m'entourent, développer une capacité à prendre mieux en compte cette réalité, cette fragilité sociale, humaine, individuelle, et ça peut aller jusqu'à prendre soin de l'autre. Donc il y a toutes ces dimensions relationnelles, je dirais. Et puis il y a une troisième dimension, donc individuelle, relationnelle, et la troisième dimension, c'est aussi, moi j'utilise ce mot, je sais pas si c'est un mot, c'est un mot parfois qui fait un peu peur, mais une dimension plus spirituelle, où finalement, si nos fragilités nous constituent, si notre vulnérabilité, elle est pas honteuse, elle est pas cachée, alors on peut établir un rapport au monde où on va accepter d'être touché. Et du coup, je suis plus là avec mes petites forces à essayer de construire une tour de contrôle, mais je suis en danse permanente entre ce qui m'arrive, ce que je ressens, comment je vais répondre, et du coup, il y a, je pense, quelque chose de notre capacité à nous laisser traverser par la vie, par... par notre destin, enfin après, chacun va l'appeler comme il veut, mais qu'en tout cas, cette posture-là, pour moi, c'est une posture aussi existentielle, en fait, peut-être, un peu différente, que je trouve plus riche.
Mmh. C'est clair. Très, très beau aussi. De manière très concrète, moi, j'entends autour de moi des femmes qui peuvent dire qu'elles se sentent pas féminines.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et comment est-ce qu'on peut... accompagner ou s'accompagner pour avoir ce sentiment d'être plus féminine? Moi, j'ai toujours cette question de me demander, est-ce que tout ce qui est du type de l'apparence, qui parfois a tendance à être critiquée aussi, mais les boucles d'oreilles, tout ça, le maquillage, est-ce que ça a sa place aussi pour toi?
En fait, là, tu parles vraiment des attributs de la féminité,
ouais,
qui nous permettent de nous sentir femmes.
Mmh.
Et ces attributs, d'une certaine manière, c'est... Enfin, je vais te dire vraiment la manière dont moi je les vois. Mmh. Je dis pas que c'est la vérité, hein, mais peut-être dans mon système de croyances, le maquillage, les boucles d'oreilles, les talons, tout ça, c'est des codes que j'ai appris dans les magazines féminins quand j'étais adolescente, que j'ai appris de des films que j'ai vus, ou... et j'ai compris très jeune que si j'utilisais ces attributs, je pouvais devenir une femme. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on a une lecture féministe de ça, qui est que ceux qui ont dit « pour être une femme, il faut mettre des talons », c'était les hommes.
Mmh.
Et qu'une femme, et que, en fait... si j'utilise tous ces attributs, c'est pour me sentir femme, souvent dans le regard d'un homme. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme accepter d'être objet du regard de l'homme et croire qu'en acceptant d'être objet du regard de l'homme, je vais être validée en tant que femme. Enfin, il y a quelque chose là, je sais pas si c'est assez fouillé ce que je dis, mais il y a vraiment quelque chose qui est difficile en tant que femme, c'est que notre féminité, en fait, c'est comme si on attendait de la trouver dans le regard de l'homme, et donc du coup d'utiliser voilà ces apparats-là. Et moi, en tout cas personnellement, je suis très révoltée en fait. Enfin là aujourd'hui j'ai des boucles d'oreilles, mais je pense qu'il y a beaucoup de ces attributs que je déteste utiliser parce qu'en fait je déteste me sentir objet du regard de l'autre, et c'est pas du tout là-dedans que je me sens exister, ni exister en tant que femme, ou en tant que Camille, ou en tant que moi. Enfin, il y a quelque chose qui est difficile pour moi à accorder, en fait, entre ce désir d'être féminine, et en même temps, le refus d'être l'objet du regard de l'autre. Et je crois que la révolution féministe dans laquelle on est, ou en tout cas l'évolution peut-être justement, enfin le fait que tu me poses cette question, tu vois, c'est le signe que on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste. Et je crois qu'il y a vraiment des nouveaux codes à inventer. Enfin, en tout cas moi aujourd'hui dans ma vie, en fait, je me sens vraiment femme et je me sens vraiment féminine. Parfois en utilisant certains de ces attributs, parfois pas du tout. Mais je crois que ça passe plus par ça. Et ça passe surtout par le regard que j'ai sur ma féminité, même si, évidemment, croiser le regard des hommes dans la rue, ça vient valider, et même parfois des autres femmes, enfin, et même aussi des autres femmes, ça vient valider, ça vient nourrir mon sentiment de féminité, mais je crois pas que ce soit dépendant de tous ces attributs, comme j'ai pu le croire quand j'étais plus jeune, quoi.
Mmh. Et du coup, comment on fait pour se sentir, ce rapport à l'intérieur de soi avec sa féminité? Comment on fait pour le guérir?
Pour
vraiment se sentir femme, en fait.
Alors, c'est vraiment la question, tu vois, que les femmes posent souvent. Enfin, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que dans les cercles, les femmes venaient poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme?
Ouais.
J'ai pas envie. J'ai appris qu'il fallait que je sois une guerrière, qu'être une femme, souvent, hein, quand même aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai 40 ans. Les femmes de ma génération, on a appris que être une femme, c'était être indépendante, être une Wonder Woman, avoir un super job et en même temps s'occuper super bien de nos enfants. Enfin, qu'il y a comme ça plein d'injonctions à une certaine forme de féminité. Et que même si cette question, c'est une question que pose Simone de Beauvoir, voilà, enfin qu'elle posait déjà il y a 50 ans. Du coup, voilà, moi j'ai vu beaucoup de femmes qui venaient dans les cercles chercher pas vraiment des modèles, mais chercher d'autres femmes qui pouvaient les inspirer sur cette quête qui est une quête identitaire et je pense parfois existentielle pour certaines de. Ok, je sais que je suis une femme, j'ai un corps de femme, je me sens pas être juste un être humain, et en même temps, je sais pas ce que ça veut dire. Et je crois que pour moi, en tout cas dans ma recherche personnelle, ce qui a été intéressant, c'est que je me pose la question. C'est pas tellement les réponses que j'ai trouvées. Parce que cette question, elle m'a donné envie d'être curieuse de moi, en fait. D'être curieuse de mes qualités, de mon chemin, de mon histoire, de mon héritage. De comprendre comment les femmes de ma lignée étaient, ce qu'elles m'ont transmis, mon rapport aux hommes, et qu'en fait, cette question, elle est venue mettre en route plein de choses. Après, moi, j'ai trouvé des réponses personnelles, mais évidemment, je vais pas te dire comment faire, parce que ça, c'est pas une recette. Ouais. Mais je crois que cette question-là, en tout cas, elle met en route beaucoup de femmes plutôt sur un chemin d'être elles-mêmes, et du coup, de réinventer aussi des modèles de féminité, ou des modèles de féminité.
C'est tellement une chouette question que tu remets toi dans ton livre d'ailleurs, et auquel du coup moi vraiment aussi je me suis questionnée, et pour ma part j'étais trop heureuse des réponses avec lesquelles je venais, elles étaient vraiment en accord avec ce que je sentais au fond de moi, et je trouve que tout le monde, presque toutes les femmes et même les hommes, qu'est-ce que c'est être une femme mais aussi qu'est-ce que c'est être un homme,
oui, bien sûr,
devrait à un moment donné se les poser sur leur chemin.
Et en plus, encore plus aujourd'hui, je dirais, là pour moi c'est assez récent que je m'intéresse au transgenre, et là je pense à des livres par exemple de Paul B. Preciado que j'ai lu récemment, du coup que vraiment j'essaye de voir, enfin je comprends en fait le chemin de celles pour l'instant ou de celles et ceux qui quittent le genre dans lequel ils ont été assignés pour trouver encore plus de liberté. Parce que je dirais mon chemin, moi j'ai essayé de quitter le modèle de féminité du patriarcat pour trouver un modèle de féminité qui me correspond, mais je me dis, il y a aussi aujourd'hui, en tout cas on est vraiment très facilement en contact de gens qui poussent encore plus loin cette démarche et qui se disent carrément, ok, je vais quitter mon genre pour être moi, en fait. Et enfin, en tout cas, c'est un processus probablement plus de déconstruction que de construction. Et ça, ça m'intéresse, en fait, cette déconstruction.
Très chouette. Est-ce que tu peux finir cette phrase ? Lorsque je suis puissante, je suis...
Alors, j'ai envie d'être honnête.
Vas-y, c'est ce qu'on veut.
Je sais pas. Là, quand tu me poses cette question, ouais. Pourtant, peut-être j'aurais répondu très clairement autre chose à d'autres moments. Mais je me sens pudique de le dire. Lorsque je suis puissante, je suis sexuelle. En fait, je sens, tu vois, quand j'ai cette réponse qui me vient là, c'est vrai que je pense vraiment dans ma sexualité, quand je me sens vraiment, je dirais, aux commandes de ma sexualité. Je ressens beaucoup de puissance et je pense, alors du coup j'élabore avec toi, hein, je me sens un peu surprise de ma réponse mais bon voilà.
Mais c'est trop chouette.
Je pense que longtemps et ça c'est vraiment un héritage des femmes, on a été du côté, enfin même encore aujourd'hui, les femmes sont violées 99% par des hommes, il y a de l'inceste dans toutes les familles. Enfin, je pense que en tant que femme, qu'on l'ait vécu dans notre chair ou que nos sœurs ou que notre mère l'ait vécu, on porte toutes une blessure, je pense, d'abus, de non-respect dans la sexualité. Et que, bon, quelle que soit mon histoire, peu importe, mais en tout cas pour moi ça a été un chemin de quitter une posture à la fois de victime et aussi de, je dirais, d'infériorité, enfin de domination dans la sexualité, pas tellement parce que j'ai été avec des hommes violents, mais plutôt parce que j'étais dans une posture de soumission, à attendre de l'autre qu'il sache pour moi, ou à ou à attendre que l'autre prenne des initiatives, ou et que du coup très tôt quand même ça a posé problème dans mon couple, et que du coup très tôt je me suis mise en route aussi pour sortir de cette posture. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à comprendre, à nettoyer, à nommer, à la colère à sortir, enfin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, bon, en tout cas, moi, intimement, j'ai avancé par rapport à ça, et que cette puissance, en fait, je la sens beaucoup quand je me sens aux commandes de ma sexualité.
Merci. Et bien sûr, je me permets de rappeler que c'est bien sûr ta réponse.
Bien sûr.
Et du coup, c'est une invitation aussi aux femmes qui nous écoutent de se demander, pour elles, quand elles se sentent puissantes, comment est-ce qu'elles se sentent aussi, et qu'est-ce que ça leur évoque.
Ouais.
Moi, je me sens dangereuse.
Ouais. Et ça, c'est souvent quelque chose, tu vois, que j'ai entendu. Parce que cette puissance, en fait, on l'a pendant très longtemps associée à la domination. Et que aujourd'hui, on est en train de quitter... Enfin, là, je pense à Star Hawk, par exemple, cette écoféministe américaine qui parle du pouvoir du dedans, plutôt que de parler de la puissance et du pouvoir. Hein. Comment on peut être dans notre puissance en tant que femme sans être dangereuse, sans être dans la domination. Et souvent, quand on a été... quand quelqu'un a abusé de son pouvoir sur nous, on fait le vœu de ne jamais lui ressembler. Donc, si quelqu'un a abusé de sa puissance sur moi, je vais faire le vœu de ne jamais être puissante pour pas perpétuer la violence que j'ai reçue, par exemple. Et du coup, d'une certaine manière, il y a une confusion à l'intérieur entre la puissance et la manière dont elle a été utilisée contre moi, qui peut créer, et c'est quelque chose vraiment que j'entends souvent, que ce soit dans les cercles de femmes, mais aussi parfois, moi j'ai travaillé longtemps aussi en entreprise autour du leadership au féminin, et des femmes qui disent, mais en fait, cette posture de pouvoir, j'en veux pas, parce qu'elle est associée à quelque chose de très négatif. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui est à libérer, à clarifier à l'intérieur de soi, que je peux être dans une posture de puissance sans mal utiliser cette puissance, en fait. Je pourrais être dangereuse, parce que oui, quand je suis puissante, potentiellement je pourrais mal utiliser cette puissance, et en même temps de savoir que je suis pas le prédateur, quoi, et que je vais pas mal utiliser cette puissance. Sais pas si ça te parle.
Alors j'entends complètement ce que tu dis, et quand je dis ou quand je sens que je suis dangereuse, je me sens dangereuse parce que je me sens forte, et que du coup j'ai un peu ce sentiment de pas avoir ma langue dans ma poche si je vois des choses. Ou peut-être si j'avais pas cette connexion à ma puissance, je dirais rien, ou je resterais petite. Et là, du coup, je me sens dangereuse pour des choses qui sont pas ok, en fait. Ça a du sens, ce que je dis?
Ouais.
Comme ça, j'en fais l'expérience.
Ouais.
Puisqu'on va aussi vers un petit peu, enfin, dans notre conversation, il y a déjà un petit peu des nuances de couple. Déjà, pour prendre la direction vers les hommes, est-ce que tu sais s'il y a des... Sûrement, mais est-ce que tu sais s'il y a des hommes qui ont lu tes livres? Est-ce qu'ils y sont intéressés?
Alors, j'avoue que la puissance du féminin, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui aient lu, et c'est légitime. Je dirais, autour de moi, il y a des hommes qui l'ont lu, mais est-ce que vraiment il y a beaucoup d'hommes? Je pense que les hommes qui l'ont lu, en tout cas ceux qui m'ont fait des témoignages, c'est des hommes qui sont sur ce chemin eux aussi, de cercle d'hommes ou de questions sur leur masculinité, et que du coup il y a déjà dans leur vie des ponts entre leur travail sur ce que ça veut dire être un homme et puis ce que font les femmes de leur côté. Je pense que, soyons honnêtes, c'est plutôt ces hommes-là qui ont lu mon livre, mais je crois qu'il y a vraiment et on en parle de plus en plus, enfin, évidemment, du coup, aujourd'hui, avec MeToo, avec toute cette vague du féminisme, on parle beaucoup de ce que font les femmes, de comment les femmes se réapproprient leur pouvoir, de l'empowerment, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont sur un chemin de déconstruire une masculinité toxique, donc sortir du mythe de la virilité, eux aussi. Et ces hommes-là, ils sont souvent dans leur vie en lien avec des femmes qui font le chemin en parallèle, quoi. Hein, donc je pense que c'est surtout ces hommes-là qui ont lu mon livre, j'avoue.
Et... malgré le fait qu'il y en ait certains, du coup, qui fassent ce chemin, ils restent, on le voit bien, quand même en minorité aujourd'hui, dans les cours de yoga, dans les cercles de développement personnel. Quel est, tu penses, un moyen d'inviter de plus en plus d'hommes ou de générer davantage d'égalité dans ce genre de contexte?
Alors, enfin, déjà, je crois que c'est très important que ces espaces existent et que les hommes s'interrogent et que de toute façon, je vois pas comment ils pourraient ne pas s'interroger vu la place dans laquelle ils sont aujourd'hui, vu à quel point on pointe du doigt ces postures de domination, d'abuseur. Alors évidemment, on n'est pas en train de faire des généralités, mais je dirais que les hommes se sentent, je pense quand même assez, peuvent se sentir assez concernés par justement ce qu'il y a de toxique dans leur posture, ou ce qu'il pourrait y avoir de toxique dans une posture individuelle, mais du coup aussi surtout collective et systémique, hein. Mais je suis pas sûre qu'il faudrait qu'il y ait autant d'hommes dans les cours de yoga, dans des espaces thérapeutiques, dans les cercles. Enfin, en tout cas, je crois pas que l'égalité de nombre soit vraiment ce qu'on ait besoin d'appeler. Parce que peut-être que les hommes et les femmes, on a des chemins différents d'évolution et de transformation. C'est des chemins qui peuvent être parallèles. Mais que nous, en tant que femmes, souvent, bah, on est plus en lien avec notre intériorité, non pas que ce soit quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis notre plus jeune âge, donc on va parler de nos émotions, on va avoir envie d'entendre les émotions de l'autre, on est plus facilement dans l'empathie, tourné vers notre intériorité, et donc on va plus facilement vers ces espaces-là. Alors que, peut-être que les hommes, ils bougent parce qu'il y en a un dans un groupe qui ose dire voilà quel abuseur je suis, ou voilà ce que j'ai subi, ou voilà ce que j'ai fait, j'en ai honte. Et qu'en fait, enfin, je vois aussi qu'il peut y avoir d'autres manières, en fait, pour qu'il y ait des prises de conscience collectives qui soient pas forcément les mêmes que pour les femmes, voilà, comme tu dis, yoga, développement personnel, etc. Et puis, que bah aussi tout simplement, c'est-à-dire que dans une famille, dans une communauté, dans un groupe, dans un système, quand les femmes changent, bah ça fait changer le monde autour d'elles et ça fait changer les hommes aussi. C'est-à-dire qu'en fait du coup, si moi je me positionne différemment, bah je vais plus permettre à l'autre de se positionner de la même manière, et donc par ricochet il va bouger, et que c'est pas forcément, enfin voilà, que ça peut se faire aussi comme ça, je crois.
En janvier 2022, tu as mené une retraite ou un stage,
ouais,
avec ton compagnon,
ouais,
pour les couples.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quel genre de travail autour du couple vous faites lors
ouais,
de ces moments?
Bah, c'était une première. On avait envie d'ouvrir un espace d'échange et d'écoute et de vulnérabilité pour ces couples, pour que finalement... Dans notre quotidien, enfin en tout cas nous, avec mon compagnon, on se rend compte que même si on a une bonne communication, même si on se dit les choses, c'est pas du tout la parole quotidienne, elle nomme pas du tout la même chose que la parole qu'on peut avoir dans ces espaces de cercle où on va plus en profondeur, où on prend plus le temps de formuler les choses, où on est soutenu par le groupe. Et donc on avait vraiment envie d'offrir ça au couple qu'on accueillait. Donc je dirais qu'il y avait des petits exercices, pour s'interroger sur la nature du lien, des exercices avec le corps, enfin des choses qui nous connectent finalement à ce qu'on ressent, à nos émotions, et puis ensuite des espaces pour pouvoir partager ce qui se passe en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir des hommes et des femmes, c'est-à-dire des moments entre femmes, des moments entre hommes, mais aussi des moments au sein du couple et des moments tous ensemble, ça permet de mettre de la clarté et aussi vraiment d'être plus explicite, je pense, sur la relation. C'est-à-dire nommer ce qui va bien et puis nommer ce qui va pas, nommer ce qu'on a envie de changer, pouvoir se le dire en se regardant dans les yeux et du coup, bah, s'engager aussi l'un l'autre à changer des choses ou, voilà, je crois que c'est pas du tout des espaces thérapeutiques, hein, c'est juste des espaces finalement d'authenticité, de vulnérabilité dont on a besoin, qui nous font du bien.
Et les cercles, moi j'ai fait l'expérience que de cercles de parole de femmes.
Oui.
Toi, tu as fait des cercles mixtes, d'ailleurs tu as commencé,
oui,
dans des cercles mixtes, toi en tant que participante.
Oui.
Puis après tu en as proposé aussi.
Oui.
Et qu'est-ce que tu apprends des cercles mixtes qui sont peut-être différents du coup de cercle de femmes.
Ouais, c'est très différent. Je crois que moi, ce qui m'a le plus guérie, je dirais, pendant longtemps, j'ai eu un rapport aux hommes vraiment avec beaucoup de peur et beaucoup de colère vis-à-vis des hommes. Et ce qui m'a le plus guérie de ça, plus que mon travail thérapeutique individuel, c'était vraiment de voir dans ces espaces des hommes montrer leur vulnérabilité et parler de leur honte, de leurs difficultés, de leur fragilité, et que là, tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, a shifté. J'ai arrêté vraiment de voir les hommes comme les ennemis ou les méchants. Ça, c'était vraiment mon histoire personnelle. Alors, évidemment, j'espère que tes auditeurs vont pas croire que je le disais pas verbalement, officiellement, mais intérieurement, c'est comme ça quand même que je les voyais. Et même si je sais d'où ça vient dans mon histoire, blablabla, il y avait des choses vraiment qui étaient très collées en fait, hein, que j'arrivais pas à lâcher. Et je crois que d'être touchée par ces hommes qui se mettent à nu et qui sont comme moi, bah aussi paumés, aussi fragiles. Enfin, je dis pas tous, mais en tout cas mes expériences de cercle mixte, ça m'a vraiment permis de d'être beaucoup plus en empathie avec les hommes autour de moi. Et ça, c'était vraiment... c'était précieux sur mon chemin, quoi.
Je sais pas toi, mais bon, sûrement non, vu ce que tu proposes ici, mais moi, il y a pas mal d'hommes qui me disent « Ah, encore un truc pour les femmes, encore une retraite pour les femmes, pourquoi est-ce qu'on fait pas des choses mixtes ?»
Ouais.
Et j'ai l'impression que parfois, il y a un petit peu ce mystère. Ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi nous, on pourrait pas ?» Et à la fois, ben, le fait de créer une sororité, ça permet vraiment, je pense, hein, mais de guérir des choses entre femmes qu'on ne pourrait pas guérir s'il y avait la présence d'un homme.
Oui, ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que c'est normal qu'il soit curieux. Moi aussi, quand mon compagnon va faire des trucs dans son cercle d'hommes, j'aimerais bien être une petite souris pour savoir ce qui s'y passe, quoi. Mais évidemment, c'est pas du tout des espaces qui sont contre les hommes. Même si parfois, je vois des femmes qui viennent et qui sont tellement en colère contre les hommes que il y a une forme de revanche ou de revendication. Je crois vraiment que moi, j'essaye de pas porter ça. Mais qu'au contraire, comme tu dis, c'est-à-dire que quand on se retrouve entre femmes, il y a autre chose qui se passe. Déjà, il y a une identification qui est possible. Il y a plus, il y a plus ces affects qui sont archaïques quand même souvent. Hein, là, je parlais de moi il y a quelques instants, mais il y a souvent beaucoup de peur et beaucoup de colère quand même vis-à-vis des hommes, de la part des femmes vis-à-vis des hommes. Donc ces affects-là, ils sont moins présents. Et puis il y a le fait de faire l'expérience, comme tu dis, de cette sororité, ou en tout cas de sentir que, dans cette identification et dans cette résonance entre femmes, je peux me sentir soutenue. Et du coup, je me sens plus forte. Et du coup, je vais revenir dans mon quotidien, dans ma vie de couple, si je suis avec un homme, ou dans ma communauté, dans mes cercles, enfin, mon entreprise, peu importe. Là où je côtoie des hommes, je vais revenir en me sentant soutenue. Et moins... dans la guerre, parce qu'évidemment le but c'est de construire avec les hommes, c'est pas d'être dans l'opposition, c'est même de dépasser ces questions de genre, mais à un moment on en a besoin. Alors, je crois que c'est vraiment... Et puis, soyons clairs, très spécifiquement, pour nommer justement, on parlait d'abus tout à l'heure, on parlait de violence, enfin... pour nommer aussi la violence au-delà des violences individuelles, mais la violence du système en fait... dont les femmes sont encore aujourd'hui victimes, on peut le faire entre femmes. Parce que un homme dans le groupe va dire « Mais non, c'est pas vrai, mais c'est pas du tout comme ça, on est en 2022, c'est plus le cas, lalala », va venir minimiser souvent les ressentis qu'on a en tant que femme. Et donc le fait de pouvoir le faire dans des espaces non mixtes, ça permet de faire émerger même des sujets dont on n'aurait pas conscience, en fait. Donc pour ça, c'est vraiment important.
On parle toujours de relations, pour moi, je pense que c'est juste magique, les relations, on apprend tellement au travers. Je suis assez intéressée par la relation parent-enfant, et donc toi tu es maman.
Oui.
Alors peut-être que tu peux nous faire part d'un petit peu de ta vulnérabilité aussi. Pour toi, c'est quoi ton plus gros challenge en tant que maman dans ce rôle-là?
Il y en a beaucoup. Je crois que quand je suis devenue mère, j'avais vraiment l'impression que j'allais être une mère parfaite et que j'allais surtout pas reproduire les choses que j'avais mal vécues moi en tant qu'enfant sur mes enfants. Et que le premier challenge, la première grosse claque, c'était de me rendre compte que non, j'étais pas du tout une mère parfaite et que j'avais beaucoup de défauts et que ça n'allait pas de soi de prendre soin de mes enfants, de les élever, d'être heureuse d'être avec eux, de m'en occuper, qu'en fait finalement, en tout cas, voilà, déjà ça c'était la première prise de conscience. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont 9 et 10 ans, donc ils deviennent un peu plus autonomes, ils grandissent, c'est un bon âge, je pense qu'on n'est pas encore dans la crise d'ado, et en même temps, ils sont plus tout petits. Et je vois bien comme ce qui me plaît, en fait, c'est vite, vite qu'ils grandissent, quoi. Hein, je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui est pas hyper nourri de mon rôle de mère, ou en tout cas, pourtant, je suis quand même une mère, je pense, assez présente, voire vraiment présente, à l'écoute, etc. Mais ce qui me nourrit, c'est plutôt mes autres rôles. Du coup, y a toujours de l'ambivalence, en fait, pour moi, à être avec eux et à m'en occuper. Parce qu'en même temps, je me dis, c'est mon rôle en tant que mère, c'est bien de le faire. Et en même temps, ça m'épuise vite. Donc, je suis aussi vite impatiente, voilà, lassée, avec une envie de vite vite me remettre à travailler ou de faire ma vie, quoi. Donc je trouve une, moi je le vis vraiment comme une difficulté, l'envie de prendre soin de mes enfants et l'envie d'être ailleurs, quoi, souvent quand je suis avec eux.
Merci pour ça. On voit que tu sais, en anglais on dit you walk the talk, parce que tu fais preuve de vulnérabilité aussi là-dessus, et je pense qu'il y a plein de mamans qui écoutent qui disent genre je suis pas seule et...
Non mais il faut le dire, mais je pense qu'aujourd'hui on en parle quand même beaucoup, de ces burn-out maternels, enfin même ce mot là, tu vois, c'était pas un mot dont on parlait encore il y a quelques années. Je suis pas du tout en burn-out, mais il y a là aussi ce mythe, il est à déconstruire, de l'instinct maternel, du fait qu'on pourrait être comblé de s'occuper de ses enfants. Enfin, moi, tous les jours, je reçois en cabinet des femmes qui se sentent coupables de pas être comblées dans leur rôle de mère. Et j'ai envie de dire, en fait, moi, je vois pas en quoi ça peut nous combler. Alors, évidemment, je sais qu'il y a des femmes qui sont très heureuses aussi de ce rôle-là, et c'est pas du tout... Mais en tout cas, voilà, dans mon expérience, pour être très honnête, c'est pas si nourrissant que ça, même si j'aime énormément mes enfants.
On fait un zoom out de nos relations humaines pour aller sur quelque chose de beaucoup plus global. Comment est-ce que toi, tu vis le monde en ce moment? Est-ce que tu fais l'expérience, par exemple, de ce truc qu'on entend qui s'appelle l'éco-anxiété?
Alors là, cet été, moi j'habite à Bordeaux, en Gironde, avec tous les feux, avec la canicule, je pense que j'ai vraiment senti à quel point le monde était épuisé, et du coup, je pense avec encore plus d'acuité, même si c'est une conscience que j'ai, mais enfin avec de l'angoisse en fait, pour la première fois vraiment sur l'état du monde. Enfin, je sais pas si c'est pour la première fois, mais en tout cas vraiment c'était fort. Et en même temps, je vois bien comme... en fait, je vis toujours ces allers-retours. C'est assez étrange parce que c'est très fort pour moi depuis quelques jours. Je vois, en fait. Donc là, on enregistre ce podcast. Il y a la crise en Iran. Il y a le fascisme en Italie. Il y a... Voilà. Bon, vraiment, c'est dur de pas voir le chaos autour de nous. Et en même temps, moi, intérieurement... Je me suis jamais sentie aussi sereine. Je peux pas dire sur l'avenir du monde, parce qu'en fait, je sais pas à quoi va ressembler l'avenir du monde et de la planète, et j'ai pas du tout envie de, du coup, de minimiser les problèmes, parce qu'en fait, il y en a partout des problèmes, mais en tout cas, c'est vraiment étrange pour moi de pouvoir vivre les deux, c'est-à-dire de me sentir vraiment concernée par l'état du monde et de me dire, voilà, je sais pourquoi j'ai envie de faire entendre ma voix, je sais pourquoi c'est important de parler de cette révolution de la vulnérabilité, je sais pourquoi j'œuvre, et en même temps, intérieurement, si je suis vraiment honnête, je sens que j'ai jamais été autant à ma place, qu'il y a vraiment de la tranquillité qui peut se poser. Alors, je pense que là, je vis aussi, je mesure en fait à quel point ces dernières années, avec la crise sanitaire, j'ai été en état de survie, et que là maintenant, il y a quelque chose qui s'apaise pour moi. Donc, c'est aussi peut-être ça, juste ce que je vis. Mais du coup, il y a vraiment les deux, quoi. En même temps, avoir hyper confiance sur le fait que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est juste et que ça va aller vers quelque chose de mieux. Et en même temps, bah, c'est pas parce que je dis ça que j'ai envie de rester dans mon canapé, j'ai vraiment envie d'agir, mais je peux agir aussi peut-être d'une place qui est moins en colère ou pétrifiée ou en réaction ou dans l'urgence que si je me laissais vraiment embarquer par le discours médiatique ambiant qui nous emmène quand même là-dedans, hein, soyons honnêtes.
Ouais, donc vraiment une réalité intérieure qui est tout autre presque que ta réalité extérieure.
Oui, après, je pense que tu serais venue m'interroger la semaine dernière, j'aurais pas dit ça. Donc, je veux pas du tout dire que c'est un état et que ça y est, j'ai atteint la béatitude et que c'est terminé. Mais en tout cas, je peux toucher ça en ce moment et je me dis, ok, n'oublie pas que quand tu as l'impression que c'est le chaos et qu'en fait le monde va s'écrouler, n'oublie pas qu'il y a ça aussi qui est possible. Et là, tout d'un coup, ça met les choses en perspective, quoi. Bon, voilà, il y a les deux, quoi.
Ouais. On continue à faire notre zoom out. Oui. Donc là, on va dans quelque chose d'encore plus global. Mais pour toi, c'est quoi le but de la vie?
En deux secondes, là, en une minute. Ouais. Je crois qu'en tout cas, le but de ma vie à moi, c'est vraiment d'incarner qui je suis, d'être qui je suis. Ça veut dire de répondre à cette question. Je me souviens quand j'avais 20 ans et que je suis arrivée dans mon école de commerce, j'avais vraiment des crises existentielles et des angoisses parce que je me disais mais pourquoi personne se pose cette question et pourquoi moi ça m'occupe tellement. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça qui m'a mise en route dans cette déconstruction dont on parlait tout à l'heure, de tout ce qu'on avait construit pour moi, de tous ces rôles, de la petite fille modèle, de la bonne élève, de tout l'héritage familial, pour essayer justement de toucher du doigt ce que ça veut dire, être moi, être Camille, et puis de le manifester dans l'espoir que ça, je vais pas dire que ça serve à d'autres parce que mes réponses sont pas celles des autres, mais en fait, le but de la vie pour moi, c'est vraiment de manifester, ce que je suis profondément. Je sais pas si.
Si, voilà. Super chouette. Qu'est-ce qui serait, selon toi, la meilleure chose que l'on puisse faire pour notre santé?
Ben, je crois que c'est de s'aimer. C'est un peu bateau de dire ça, hein.
Non.
Mais, en tout cas, je vois l'impact des jugements que je peux avoir sur moi, de la culpabilité, de la comparaison, du mépris parfois que je peux avoir sur moi-même, ou voilà, tout ce qui fait, tous les moments où je me blesse moi-même quand je ne m'aime pas, je vois que ça a des impacts en fait sur ma santé. Sur mon état d'être, sur ma vitalité, et donc je pense que bah quand je fais des choses que j'aime, quand je me sens bien, même si il y a une femme qui me disait ça, elle me disait j'arrive pas à savoir si c'est mon ancien moi ou mon nouveau moi qui parle, et je me dis mais en fait c'est juste de quoi, qu'est-ce qui m'anime là en cet instant en fait, j'ai pas besoin de coller à une définition de ce qui est important pour moi, mais juste de suivre vraiment ce qui m'anime sur le moment, hein, suivre ma joie ou suivre ce qui me fait du bien. Ça veut pas dire ne pas faire face aux difficultés, mais ça veut dire valoriser suffisamment qui je suis pour écouter ce qui est vraiment important pour moi. Je pense que quand je fais ça, je fais du bien à ma santé.
J'ai encore deux petites questions. Quelle est la meilleure chose que l'on puisse faire pour nos relations?
Je crois que... Alors... Vraiment, je vais plutôt parler de quelque chose d'intime pour plutôt que de donner un conseil général, mais dans ma vie et notamment dans mon couple, puisque c'est cette relation-là qui est la plus challengeante pour moi, je me rends compte à quel point être patiente, à quel point la patience, en fait, est utile dans ma relation. C'est-à-dire tous les moments où, ok, j'ai envie de gueuler comme parce que je suis dans la réaction et que je pars au quart de tour. Ou tous les moments où je vais dramatiser et me dire ce que je vis là, en fait, c'est une montagne. Ou tous les moments où je me dis, non mais en fait, ce défaut qu'il a, ça, c'est pas possible, il pourra jamais changer. Donc en fait, ça, voilà. Toute mon impatience me donne envie, enfin, me rend maltraitante, en fait, par rapport à la relation. Et donc, la patience que je peux avoir, c'est vraiment aussi ce qui permet à ma relation de couple, et du coup, par ricochet à mes relations, de changer. En même temps, quand je dis ça, j'ai pas envie de paraître... Enfin, je pense qu'il y a des moments où il faut trancher et où être patiente, c'est pas rester dans quelque chose d'inconfortable et ne rien faire en croyant que ça va changer. Mais c'est, je dirais, cette souplesse ou cette disponibilité qui fait que je vais pouvoir poser une action juste, en fait. Et je pense que ça, c'est ce qui fait le plus de bien à nos relations.
Et si tu avais une baguette magique et que tu pouvais mettre 3 livres obligatoires dans tous les lycées de France, en sachant que les tiens y sont déjà, qu'est-ce que tu déposes ?
Alors, peut-être pour parler de... Ah là là, c'est une question difficile. Bah, de ce dont on a parlé aujourd'hui... je sais pas si j'ai une réponse à cette question. En fait, il faudrait tellement plus que 3 livres. En tout cas, clairement, à l'école, on a le discours dominant dans l'histoire, la manière dont on lit l'histoire, la manière dont on vit la littérature. On n'apprend que le point de vue des dominants. Donc, je pense qu'il faudrait mettre des livres qui parlent de ce point de vue des dominés pour commencer à raconter une autre histoire. Là, tout d'un coup, quand je te dis ça, je pense à ce livre de Maryse Condé, je crois. Moi, Tituba sorcière, par exemple. Voilà, là, il y a ce livre qui me vient, mais je pense vraiment, voilà, les livres qui viennent nourrir un autre point de vue sur l'histoire, la société, pour générer d'autres récits, quoi.
Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager ? Je sais que, par exemple, tu vas commencer... Enfin, tu as déjà commencé un programme en ligne.
Oui.
Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu plus ?
Oui, je lance le 14 octobre un programme en ligne autour de la vulnérabilité. C'est un programme en vidéo où chaque semaine, je transmets des contenus, on va dire, théoriques, un peu des choses que j'ai explorées dans mon livre, mais je dirais, voilà, toutes ces années de recherche sur la vulnérabilité, bah, j'en parle dans ces vidéos, et puis chaque semaine, il y a aussi une méditation pour aller pas juste comprendre conceptuellement et intellectuellement ce que c'est que la vulnérabilité, mais vraiment pour toucher notre vulnérabilité, toucher notre fragilité. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disent « mais ça m'a fait pleurer, ça m'a remis en contact avec des choses qui étaient passées », et je crois qu'en fait, bah, voilà, si ma contribution au monde en ce moment, c'est de pouvoir permettre aux gens de vivre dans un espace sécur, le groupe, le fait qu'il y ait aussi des ateliers en live et qu'on se retrouve et puis qu'il y ait une communauté de gens qui vivent ce programme ensemble, ça crée une forme de sécurité pour aller plonger dans ces endroits où on va pas, parce que bah, jusqu'à maintenant, ça nous fait honte d'aller voir ça. Donc je crois que... Voilà, c'est une invitation pour celles et ceux qui veulent à nous rejoindre.
Carrément. Et moi, je viendrai avec plaisir.
Bienvenue.
Merci beaucoup, Camille,
merci à toi,
pour ce moment. Et on mettra tous les liens de ton site internet et de ton programme disponible sur la page du podcast.
Merci.
Merci beaucoup et on te souhaite une belle continuation.
Merci à toi aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, alors ça serait génial si tu pouvais nous taguer sur les réseaux sociaux avec Camille Sfez et moi, Anouk Coroller, pour qu'on te fasse un petit repost. Et tu peux également aller donc voir le site internet de Camille Sfez, www.camillesfez.com, ou le mien, anoucoroller.com. Je te remercie encore. Continue à aller vers l'avant, vers tes rêves. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.